À Noël, on fête l'anniversaire de la naissance de Jésus. Ça, vous le savez très bien. Mais qui était Jésus vraiment? Alors, les théologiens nous disent, Jésus, il est à la fois homme et Dieu. J'avoue que ça n'est pas très facile à comprendre. Et pour moi-même, je n'ai pas beaucoup de goût pour ce genre de théologie. Parce que d'abord, ces histoires de demi-dieux, d'humains qui sont fécondés par des dieux et qui donnent des sortes de demi-divinités, j'ai un peu tendance à laisser ça aux mythologies païennes, et je n'ai pas trop de goût pour ça dans notre théologie chrétienne. Et puis ces histoires de demi-dieux qui sont à la fois Dieu sans être Dieu, ça ne me plaît pas beaucoup non plus. Je ne crois pas que Dieu soit un demi-dieu comme un lait demi-écrémé ou comme s'il était à la fois mi-chèvre, mi-chou ou un fromage qui est à moitié vache et à moitié chèvre ou je ne sais quoi. Enfin, cela ne me convainc pas beaucoup. Alors, comment s'en sortir? En fait, certains basculent du côté de l'homme et disent « Jésus, en fait, c'est un homme qui a bien compris qui était Dieu, qui était très proche de Dieu et qui nous en a merveilleusement parler. Et du coup, ces gens-là disent, eh bien, Jésus, il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Et là encore, parmi ceux-là, il y en a qui sont encore plus hérétiques et qui disent, il est fils de Dieu, mais même pas biologiquement. C'est une façon de parler, parce que les dieux ne couchent pas avec les humaines, bien sûr, mais il est fils de Dieu spirituellement, parce qu'il tire tout ce qu'il est de Dieu. Parce qu'il en est le représentant, parce qu'il lui ressemble, parce qu'il en est le serviteur, et parce que même dans notre société aujourd'hui, on peut être fils de quelqu'un sans en être biologiquement ou génétiquement le descendant. Il y a des fils adoptifs, et simplement, quelqu'un peut déclarer un autre son père, parce que le père de quelqu'un, c'est celui qu'il aime et qui s'en occupe, c'est pas forcément celui qui en est le géniteur. Donc Jésus peut très bien être fils de Dieu, un peu comme un fils adoptif. Ça a été d'ailleurs une hérésie qui a eu beaucoup de succès en Orient, qui s'appelait l'hérésie adoptionniste. Et je soupçonne qu'un certain nombre de protestants aujourd'hui sont un peu adoptionnistes. Alors d'autres, au contraire, basculent de l'autre côté. Et ils disent en fait, non, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ça, on l'entend. Regardez, par exemple, dans ce vieux chant de Noël, « Minuit chrétien ». Où on chante « La naissance de l'enfant Dieu ». C'est drôle ça, « La naissance de l'enfant Dieu ». Donc ça laisse supposer que Jésus lui-même est Dieu. Et si vous assistez à des messes ou des cultes d'ailleurs, parfois on entend des officiants qui prient en disant « Seigneur Jésus, toi qui es Dieu », des choses comme ça. Donc on trouve effectivement certains chrétiens qui divinisent Jésus et qui d'une certaine manière croient en Jésus comme on croit en Dieu. C'est-à-dire que Jésus, c'est une sorte de divinité, donc on prie en lui, on lui demande de l'aide, on lui demande son pardon, on lui demande qu'il agisse dans le monde, qu'il fasse ceci ou cela. C'est assez curieux, c'est une chose que reprochent beaucoup les musulmans, par exemple, qui disent « les chrétiens sont polythéistes, parce qu'il y a Dieu et il y a Jésus, alors ça fait déjà deux dieux, il y en a un de trois, et en plus on rajoute le Saint-Esprit, ce qui fait un troisième ». Parfois, ça n'est pas faux. La Trinité est une chose plus compliquée que ça, et ce serait l'objet d'une autre réflexion. Mais en fait, bien que ma tendance à moi, ce soit plutôt de basculer du côté du Jésus-homme, je ne le cache pas, je dois dire que je vais aujourd'hui vous prouver que Jésus n'est pas homme seulement. Voilà. Et que Jésus, finalement, eh ben, il est bien. À la fois homme et Dieu. C'est un peu un mystère, mais finalement, après ayant dépassé ma sorte de répulsion à cet égard, je crois que Jésus est bien à la fois homme et Dieu, et je vais vous le prouver. Je vous le prouve de la façon suivante, c'est que si Jésus n'était qu'un homme, pourquoi nous donnerions-nous tant de mal à célébrer la naissance, l'anniversaire de sa naissance? Réfléchissez bien, trouvez-moi un grand homme dont on célèbre l'anniversaire de la naissance. À mon avis, aucun. Je veux dire, personne ne sait quand Napoléon Ier est mort, est né, enfin mort, je ne sais pas, mais né, on ne le sait pas. On ne célèbre pas la naissance de Jules César, on ne célèbre pas la naissance de Platon ou d'Aristote, on ne célèbre même pas le jour de la naissance de Saint Paul, par exemple, Saint-Pierre, Saint-Luc, Saint-Marc, pas du tout, ni même de Calvin. Enfin bref, on ne célèbre jamais la date, la naissance d'un grand homme. C'est comme ça. Et en fait, c'est peut-être pour la raison suivante, c'est que petit bébé, un grand homme n'est pas un grand homme. Un petit bébé, un futur grand homme, ce n'est qu'un bébé, ça n'est rien en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que Victor Hugo, à 6 mois, n'écrivait pas des poèmes. Victor Hugo, à 6 mois, il faisait blablabla, mais il faisait rien d'intéressant. Et Napoléon Ier, à 6 mois, n'était pas un grand chef de guerre. Il ne faisait aucune loi, aucun code civil. Par conséquent, les grands hommes bébés ne sont rien d'intéressant. Ce ne sont simplement que de futurs grands hommes. Et c'est là où il y a quelque chose. C'est que Jésus, quand il naît, même bébé, il est déjà le Christ. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me fait réfléchir. Donc certes, Jésus est intéressant parce qu'il a dit des choses formidables qui nous sont consignées dans l'Évangile. Mais ça n'est pas que ça. Jésus en lui-même représente quelque chose qui le dépasse. Parce que Jésus, il a quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de transcendant. Et Jésus, c'est plus qu'un grand homme, voilà. La venue du Christ a sauvé le monde et il a créé un monde neuf. Et ce que Jésus a été, c'est encore important aujourd'hui, 2000 ans après, c'est extraordinaire, c'est surhumain, quoi, c'est au-delà de tout. Et même bébé, Jésus est déjà le Christ, ça je le crois tout à fait. C'est-à-dire que la venue de Jésus dans le monde, c'est déjà une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que, eh bien, c'est peut-être que Dieu s'intéresse à nous. Si on voit Jésus comme l'envoyé de Dieu, on peut dire la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas un Dieu indifférent, lointain, dans son ciel, qui nous regarde de haut, mais que Dieu, c'est un Dieu qui se préoccupe de nous, et c'est un Dieu qui vient vers nous. Donc, en Jésus, c'est un homme qui est tout revêtu de la transcendance et de la grandeur de Dieu, et donc de dire, eh bien, ce bébé est déjà quelque chose de transcendant et de divin. Et donc, la naissance de Jésus, c'est ce Dieu, finalement, oui, qui descend vers nous pour nous rencontrer, pour nous comprendre. Donc, finalement, ce Jésus qui naît à Noël nous apprend que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais qu'il est un Dieu qui s'approche et qui vient nous rencontrer dans notre vie humaine, dans notre fragilité, dans notre vie quotidienne. Alors me direz-vous, voilà, c'est fait, donc c'est bien ce que je vous disais. Jésus est Dieu, et voilà. Et donc Jésus, c'est Dieu qui vient nous visiter d'en haut. Eh bien non, je ne crois pas en fait, quand même pas. Je ne peux pas aller quand même jusque-là, parce que Dieu, contrairement à ce vieux cantique, ne naît pas. Dieu, il est éternel, il n'a pas attendu la venue de Jésus pour être. Avant Jésus, il y avait déjà Dieu, donc Dieu ne naît pas. Dieu, il est éternel. Et puis Dieu, il ne descend pas du ciel. Dieu, il est dans le ciel. On dit notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas notre Père qui était aux cieux autrefois et puis qui maintenant est parmi nous depuis que Jésus est venu. Donc notre Père, il est au ciel. Dieu, il est dans le spirituel. Et il ne faut pas tout mélanger, le ciel, la terre, etc. Non. Il y a le spirituel, l'éternel, le transcendant, l'absolu, l'inconnaissable, ça c'est Dieu. Et puis il y a le terrestre, l'humain, le passager, c'est nous. Voilà. Et puis même, bon, Jésus, il est très bien, mais Dieu ne porte pas une barbe et des sandales. Et puis Dieu n'est pas crucifié. Dieu ne dit pas « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou d'autres choses. Dieu ne meurt pas sur une croix. Dieu est au-delà de tout ça. Ou alors, Dieu n'est plus Dieu. Donc il y a un danger, à mon avis, à trop réduire Dieu à Jésus, parce qu'on réduit Dieu à une sorte de copain sympathique qui nous aime, qui dit « aimez-vous les uns les autres » et tout. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui est quand même au-delà de nous, sinon il ne nous sauve plus. Alors, donc finalement, Jésus est-il homme ou est-il Dieu? Eh bien, écoutez, en fait, je ne sais pas. Il est homme, oui, mais à mon avis, il est quand même un peu plus que ça. Voilà. C'est plus qu'un homme formidable. Jésus, il y a quelque chose de divin en lui, si vous voulez. Et puis Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Ben non, pas vraiment quand même. Mais Jésus, il est, ben peut-être qu'il est un peu les deux. C'est un homme divin où Jésus, c'est Dieu qui rencontre l'homme, c'est Dieu qui vient se rapprocher de l'homme. Et donc finalement, je crois que c'est ça qui m'intéresse en Jésus, c'est qu'il est justement au point de rencontre, si vous voulez, entre deux réalités, l'une qui est l'humanité et l'autre qui est la divinité. Jésus, c'est le point où tout à coup se rencontrent l'humain et le divin. Alors, on symbolise ça dans nos églises par la croix, c'est-à-dire qu'il est le point d'intersection entre le vertical, qui est le spirituel, et l'horizontal, qui est le matériel. Et Jésus, il est juste au point de rencontre entre les deux. Les points de rencontre, c'est toujours dangereux, et Jésus en a subi les frais, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé crucifié sur la croix. Une autre image qui m'est chère, c'est de dire que la mort de Jésus, c'est en fait... C'est Jésus qui est broyé par ces deux réalités qui se rencontrent, comme la fille de Victor Hugo, puisque je l'ai cité tout à l'heure, Léopoldine, qui meurt dans le mascaret de la Seine. Vous savez, le mascaret, c'est quand un fleuve coule dans un sens, et lorsque la marée monte dans l'autre, au point de rencontre à l'estuaire d'un fleuve, entre le fleuve qui descend et la marée qui monte, ça crée une vague importante, qui s'appelle un mascaret. Et la fille de Victor Hugo, ayant voulu traverser la Seine sur le bac au moment du mascaret, qui est un phénomène rare, eh bien, la barque a été retournée et Léopoldine est morte dans le mascaret de la Seine. Eh bien, Jésus est mort broyé dans le mascaret entre l'humanité qui s'approche de Dieu, la divinité qui le rejoint, et au point de rencontre entre l'humain et le divin, ça crée un remous dont finalement Jésus a été lui-même la victime. Mais en tout cas, je pense qu'il faut, en Jésus, justement garder ces deux pôles. On ne peut pas penser Jésus que l'un. En Jésus, il faut penser justement l'homme et penser Dieu. Et il faut arriver à garder, quand on pense Jésus, à rester sur l'équilibre entre homme et Dieu et basculer ni d'un côté ni de l'autre. Jésus est ni trop homme, ni trop Dieu. Mais de toute façon, si on y pense bien, c'est vrai pour toute notre vie, parce que en fait, Jésus n'est que l'image de ce à quoi est appelé l'être humain, et nous sommes invités, comme Jésus finalement, à être sans cesse au point de basculement entre l'homme et Dieu, entre le spirituel et le matériel. Et en fait, nous sommes, nous, le point de contact entre l'humain pur, l'humain préhistorique, je dirais, l'humain matériel, biologique, et puis le divin du spirituel. Et donc, toute notre vie, elle doit être comme une sorte d'équilibre extrêmement délicat, où il faut sans arrêt maintenir les deux et basculer ni d'un côté ni de l'autre. Donc, nous devons maintenir notre vie en équilibre entre le matériel et le spirituel. Certes, notre vie est matérielle, donc nous devons nous préserver physiquement, nous devons manger, nous devons prendre des vacances, nous devons nous faire plaisir, nous devons travailler matériellement dans le monde, gagner de l'argent, et en même temps, nous sommes aussi spirituels. Et donc, nous devons ne pas oublier que tout n'est pas que biologique et qu'il y a aussi cette dimension de la foi, du spirituel, de l'élévation. Et qu'il faut garder les deux. Si on va que dans le spirituel, on meurt. Et si on reste dans le matériel, on est une bête. Et en fait, on est entre les deux. Et l'homme est à la fois, comme disait le poète, je dirais, mi-ange, mi-démon. Et en fait, on est les deux à la fois, qu'on le veuille ou non. Et dans notre vie, c'est aussi tout, si vous réfléchissez bien, tout est toujours cette espèce d'équilibre entre les deux. On pourrait dire que même notre foi en Dieu, dans notre foi en Dieu, il y a à la fois une dimension de confiance dans la providence divine et en même temps aussi une nécessité de responsabilité personnelle. Et donc, on doit être dans une sorte d'équilibre, à la fois dire « ma vie, il faut que je la gère, donc si je suis malade, je vais voir un médecin et puis je vais essayer de régler les problèmes matériellement. » Et en même temps, je crois dans la providence divine. Donc, ça ne dépend pas de moi. Et je dis, ben voilà, on verra bien, Dieu pourvoira. Alors, notre foi, elle est justement entre les deux, entre responsabilité matérielle de ma vie et abandon, foi dans la providence de Dieu. Si on tombe trop d'un côté ou trop de l'autre, on s'écrase. Et il faut arriver à rester justement équilibré entre les deux. Mais on pourrait continuer encore en disant toute notre vie, c'est aussi la question de l'équilibre entre soi-même et les autres. Jésus dit, il est gentil, aime ton prochain comme toi-même. Mais il faut que je m'aime moi-même et que j'aime mon prochain. Mais si je m'aime trop moi-même, je garde tout pour moi. Et si j'aime trop mon prochain, je donne tout à l'autre. Eh bien, il faut un peu pour soi et un peu pour l'autre. Faut arriver à rester en équilibre entre moi et les autres, entre maintenant et plus tard, parce que parfois je peux me dire, ben je veux avoir une satisfaction immédiate ou au contraire me priver maintenant pour un résultat plus grand plus tard. Sans arrêt, la chose est difficile comme ça. Ou encore, je pourrais continuer à trouver tous ces couples entre conviction et tolérance. Il faut être convaincu et en même temps ouvert et tolérant sur les autres. Donc tout ça, c'est compliqué. Et donc je me rends compte que la vie, finalement, la vie du chrétien, c'est une vie d'équilibriste. Voilà. On est sans arrêt en train de devoir marcher sur une ligne de crête et me dire, je suis à la fois pécheur et pardonné. Il faut tomber ni d'un côté ni de l'autre, ni trop dans le péché, auquel cas je dis, je suis mauvais, je suis nul, incapable, ni dans le trop pardonné. Auquel cas, tout se vaut, Dieu pardonne. Et donc, il faut rester sur la ligne de crête entre pécheur et pardonné, entre l'homme et Dieu, le matériel et le spirituel, entre l'égoïsme et l'altruisme, entre maintenant et plus tard, entre moi et les autres, et sans essayer de compter et de tomber ni d'un côté ni de l'autre, sinon on s'écrase. Et le chrétien, il est, je vous ai dit, comme un équilibriste. Il est comme toujours sur le fil d'un rasoir, et il faut donc bien regarder ses pieds et à chaque instant rétablir l'équilibre. Et finalement, il n'y a pas tellement de recettes, il faut simplement toujours essayer de prendre garde, et c'est à chacun de voir comment il fait son équilibre. Et ça m'a fait penser à une phrase que j'ai trouvée dans une carte de vœux qu'avait adressée le pasteur Wilfred Monod à mes grands-parents, il y a longtemps. Et à ce moment-là, les pasteurs bien élevés envoyaient leurs vœux aux paroissiens, et il y avait une petite phrase édifiante, qui dans ce cas-là était une citation de Charles Wagner, du pasteur Wagner, qui résume bien tout cela. Et Wagner a écrit « C'est au-delà, je dirais ce spirituel ou ce domaine de la foi, c'est au-delà. Il ne faut jamais s'y absorber, sous peine d'oublier de vivre, ni l'oublier sous peine de ne plus savoir pourquoi on vit. » Donc c'est au-delà, il ne faut jamais s'y absorber sous peine d'oublier de vivre, ni l'oublier sous peine de ne plus savoir pourquoi on vit. Voilà. Alors j'ai défendu ce point de vue-là, et puis ce matin, il y avait ensuite quelqu'un qui a illustré ses propos. C'était un équilibriste qui a marché sur un fil et qui a montré à quel point c'était extrêmement délicat de toujours maintenir cet équilibre, et que le chrétien est une sorte de funambule sur son fil. Et puis après, nous avons continué notre réflexion, parce que en parlant avec lui, avec cet équilibriste, il a dit non, en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il a dit, en vérité, le but c'est pas d'essayer de regarder ses pieds pour garder l'équilibre. Il a dit, il faut être dans la dynamique, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Et il dit, c'est beaucoup plus facile si on le voit comme ça. Donc il a dit, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut un but, c'est-à-dire, il a dit que si on avance et si on est dans le dynamisme, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Alors il a montré après, dans un autre passage, que finalement, plutôt que d'essayer de rester immobile en disant, il faut que je tombe ni à gauche ni à droite, il faut oublier un peu cette espèce de menace qui est la nôtre, et de dire, il faut y croire, et il faut foncer. Et quand on avance, quand on a un but, qu'on sait où on va, eh bien, ce n'est plus un problème. L'équilibre se fait tout seul, en quelque sorte. Et ça, c'est assez intéressant, parce que je crois effectivement que les propos que j'ai tenus tout à l'heure, qui sont des propos de sagesse, à la fois, ils me plaisent, je crois que c'est juste, mais en même temps, j'ai un petit recul dans ce que je dis, parce que ça ressemble à cette vieille morale médiévale qui disait « in medio stat virtus », c'est-à-dire la vertu ou la vérité, elle est dans le moyen terme. Donc il faut être, une fois de plus, ni ceci, ni cela, ni trop gentil, ni trop égoïste. Et finalement, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Parce que l'on voit bien dans la Bible qu'à un moment donné, parfois, la folie elle-même est aussi productive. Et que Paul le dit d'ailleurs, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et donc, il ne faut pas sans arrêt se regarder. Voilà. Il faut aller de l'avant et il faut avoir une sorte d'audace, je dirais, de folie, de confiance pour avancer et être dans le dynamisme. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que ce même équilibriste nous a dit, bon, ben, vous me demandez de marcher sur le fil comme ça, mais c'est difficile, il me faut un balancier, voilà. Et donc, avec un balancier, il y arrive très bien. Alors, on peut continuer après l'image et se dire, le chrétien, il lui faut effectivement deux choses pour avancer. D'abord, c'est de ne pas s'arrêter, d'avancer, d'être en route, d'avoir un objectif, de savoir où il va, de regarder droit devant lui, ça c'est la foi, et puis d'avoir une sorte de balancier qui l'équilibre. Et quand on a ce balancier qui vous équilibre, il n'y a plus aucun risque. Alors je pourrais dire que justement, pour le chrétien, ce balancier, c'est quoi ? Eh bien, ben c'est peut-être le Christ lui-même, qui justement est sans arrêt, à la fois enraciné dans l'humain. Et tout l'Évangile montre un Christ très humain, profondément humain, un Christ qui pleure, un Christ qui doute, un Christ qui aime. Et puis, de l'autre côté, un Christ divin. Et donc, en tenant le Christ, on tient les deux bouts. Et on a comme ce balancier qui, finalement, étant équilibré entre les deux bouts, eh bien, nous garde lui-même en équilibre. C'est pour ça que je milite pour, j'allais dire, une christologie équilibrée, qui nous fasse tomber ni d'un côté ni de l'autre, et quelque chose qui nous donne ça. Et je pense qu'effectivement, il y a dans la foi un vecteur d'équilibre et de confiance qui fait que, quand on a confiance, on y arrive. C'est la célèbre histoire de Pascal, vous savez, avec sa planche, et il dit, si je prends une planche de 20 cm de large, posée sur le sol, je marche dessus sans problème. Maintenant, on la met au-dessus d'un abîme de 1000 mètres de vide, je n'y passe plus, parce que je n'ai plus la foi, c'est-à-dire tout à coup, j'ai peur. Et donc, il disait ça aussi, notre équilibriste. À un moment donné, il faut être pleinement dans ce qu'on fait et avoir confiance et avoir la foi. Et à ce moment-là, on tient debout et ce qui pouvait sembler impossible devient possible. En tout cas, je crois que c'est cela, le propre du chrétien. Certes, le chrétien est un équilibriste, mais il n'est pas le premier à le faire. Et il y a donc, oui, cet équilibre de la foi qui nous est donné. Et puis, une fois qu'on a cela, on arrive à garder toutes ces choses en main, à rester sur le fil de la voie de l'Éternel, qui est droite, sur laquelle on marche. Et puis, une fois qu'on est bien, eh bien, on peut jouer sur le fil et être heureux et être bien là. Et c'est tout ce que Dieu nous demande et tout ce qu'il peut aussi nous offrir. Amen.